affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Vous voyez la genèse. C'est en somme ce qui est arrivé à Frédéric Vitoux de l'Académie française lorsque, tout jeune homme, il est tombé dans la bibliothèque familiale sur un court poème d'Henri Jean-Marie Levet. Une rencontre fortuite, un hasard de rayonnage, mais une rencontre décisive. Comme il le précise dans un récent ouvrage paru début janvier, Henri Jean-Marie Levet a réussi à se glisser dans mon intimité comme s'il faisait partie de ma famille ou qu'il comptait parmi mes proches. Il s'est installé chez moi à la façon de ses amis un peu désinvoltes qui vous réconfortent et refusent de prendre congé. C'était il y a des dizaines d'années, et pourtant, par fidélité à ce premier éclair, vous venez, monsieur, bonjour d'abord, merci
bonjour.
D'être parmi nous, de publier un livre étrange comme Henri Jean-Marie Levet, l'Express de Bénarès, et dans lequel vous nous contez cette amitié lointaine avec quelqu'un qui est un fantôme, qui n'a donc cessé de vous accompagner et qui maintenant va nous obséder aussi. Peut-être faut-il commencer par le début, par cette rencontre, parce que finalement, elle fait écho à beaucoup de rencontres littéraires. Le hasard joue un grand rôle, non, dans
Je
la littérature
crois, oui. Je crois, oui. J'avais 17 ans. Et dans une vieille anthologie poétique qui avait appartenu à mon grand-père, il faut dire que l'appartement que j'occupe a été celui de mes parents et celui de mes grands-parents. Donc la plupart des livres autour desquels j'ai été élevé, et où je continue à vivre du reste, c'était des livres collectionnés par mon grand-père, des livres de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et il y avait cette anthologie poétique de 1928, et je l'ouvre par hasard, comme ça en fouinant, en regardant, et je tombe sur un poète totalement inconnu, dont j'apprends qu'il est mort en 1906 de tuberculose à l'âge de 32 ans, et dont le nom ne me disait évidemment rien, dont je n'avais jamais entendu parler, et pour cause à l'école, au lycée, qui s'appelait Levet, Henri J.M. Levet, Henri Jean-Marie Levet. Et il y avait un poème qui s'appelait Outwards et qui commençait par ce quatrain, l'Armand Béic, des messageries maritimes, file 14 nœuds sur l'océan Indien, le soleil se couche en des confitures de crime dans une mer plate comme avec la main. Et je trouve ça assez... Ça m'épate. Vraiment, ça m'épate, parce que je trouve ces métaphores un peu rieuses, le soleil se couche en des confitures de crime dans une mer plate comme avec la main. Je ne pensais pas que la poésie pouvait être aussi rieuse, aussi imagée, aussi désinvolte, avec ses ainsi, ses parenthèses, l'Armand Béic, le nom du bateau, entre parenthèses, des messageries maritimes. Bon, et puis le poème se continue comme un petit roman exotique, et ça me fait rêver. Et mon père, qui veillait de loin sur mon éducation, me voit lire ce poème et me dit, comme ça en passant, « Ah, tu sais, c'est drôle parce que ton grand-père... » Il parlait toujours de son père à lui en me disant « mon grand-père » a voyagé à bord de l'Armand Béic. Et d'un seul coup, cet Armand Béic un peu mythique s'est rapproché de moi parce que c'était un bateau qui avait vraiment existé et sur lequel mon grand-père s'était embarqué au tout début du XXe siècle pour un voyage, une mission médicale en Chine. Et puis, j'ai lu les 5-6 poèmes qui composaient ce choix dans l'anthologie poétique de 1928 que j'avais à ma disposition. Et je ne sais pas pourquoi, sans que je fasse aucun effort, je les sais instantanément par cœur, les 5 ou 6 poèmes de cette anthologie. Et ça m'obsède. Et au fond, comme je le dis, oui, ce poète m'a toujours marqué. Un peu plus tard, j'ai trouvé une édition des œuvres de Levet, qui sont très courtes. Levet a écrit 21 poèmes dans sa vie avant de mourir. Il ne s'est jamais considéré comme un poète professionnel, un poète avec l'étiquette poète, parce qu'il n'a jamais été reconnu vraiment comme tel par ses contemporains. Et Il y a un deuxième élément qui me fascine, après l'exotisme de ces poèmes qui parlaient de Nagasaki, de La Plata, de Brazzaville, de Port Saïd, qui était vraiment un exotisme, qui était regroupé sous le titre « Carte postale », je lis la préface de cette édition qui n'était pas la première, hein, parce que la première avait été faite en 1921, donc bien après la mort de Levesque, que ses amis avaient rassemblé les œuvres. Et c'était une édition des années de l'occupation faite par Jean Paulhan. Et il y a une préface qui me semble incroyable. C'était marqué 2 mars 1911, je crois, ou 3 mars 1911. Conversation dans une limousine entre Valérie Larbaud et Léon-Paul Fargue sur la route entre Montbrison et Saint-Étienne. Comment peut-on faire une préface comme ça? Ça me semblait extravagant. Et eux, ils évoquent un Levesque véritable qui était une sorte de bohème farfelu, extravagant, du Montmartre, du tournant du 19e et du 20e siècle. Et puis, voilà, sans arrêt, des coïncidences vont arriver. Par exemple, mon premier roman s'appelle « Carte postale », comme le recueil des 10 poèmes exotiques de Levesque. Et puis, il y a d'autres ressemblances. Si bien que ce poète, qui depuis un peu plus d'un siècle a été aimé par, on pourrait dire, de génération en génération, par une centaine, 150 amateurs qui se passe ce mot de vraiment comme un mot de passe, un peu un secret, mais défendu par des grands quand même. Celui qui l'a fait connaître, c'est Valérie Larbaud, avec son ami Léon-Paul Fargue. Par la suite, Paul Morand va être très marqué par lui et d'autres.
Puis même dans l'anthologie initiale, il voisine avec
Il voisine avec les plus grands. Ça va de Rimbaud jusqu'à Jean Cocteau pour les plus modernes, évidemment. Ah oui, évidemment. Ce poète qui a joué un rôle important, pour lequel Larbaud a dit « Sans Levesque, j'aurais peut-être jamais écrit mes poésies, dont Barnabous, par lequel il va commencer son œuvre vraiment littéraire et poétique, Larbaud. » Et voilà. Et donc, j'ai voulu mener une enquête sur cet homme très mystérieux sur lequel on ne savait rien.
Mais vous avez mené cette enquête des années et des années plus tard, dans l'intervalle. Oui. Que se passe-t-il?
Ce qui se passe, c'est qu'on est distrait. J'étais journaliste, j'ai écrit des livres. Et puis, je dois dire que depuis quelques années, je me fatigue un peu d'écrire des romans. Je sens une certaine... beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Et j'aime bien, et c'était valable déjà dès le précédent livre, Au rendez-vous des mariniers, faire des livres qui apparemment pourraient être des enquêtes historico-littéraires. Oui. Mais et qui sont aussi des livres très personnels. Car en partant à la recherche... plus précisément pour ce dernier livre, de ce poète mystérieux, célibataire, qui a écrit quelques poèmes dans des revues et qui n'a jamais été reconnu vraiment comme un écrivain sérieux, comme un poète sérieux de sa vie durant. Cet homme assez étrange, assez loufoque, on pourrait en parler tout à l'heure en détail, mais ses parents ont tout détruit à sa mort. C'était un fils de notable de Montbrison, cette sous-préfecture du département de la Loire. Son père a été pendant 30 ans le député inamovible de cette circonscription de la Loire à Montbrison. Et son père, pour quelle raison a-t-il été effrayé par ce qui pouvait rester de ses manuscrits, de ses lettres? Y avait-il des secrets inavouables? Ou simplement qu'il mésestimait totalement l'œuvre de son fils, dont il avait fait, voyant, désespérant de cette vie de bohème, il avait poussé son fils, après l'abandon de sa carrière poétique, il avait voulu faire de son fils un consul. Et donc Levesque est devenu consul de France honoraire, de troisième classe. Donc pas honoraire, consul de troisième classe. Il est parti à Manille, puis après aux Canaries, à Las Palmas, et il est mort de tuberculose. Mais donc, il y avait, non seulement j'avais envie de faire une enquête presque policière, de rechercher tout ce qu'on pouvait trouver dans les traces, dans les archives, les archives des messageries maritimes, tout, parce qu'il y a tellement de vide, tellement de silence autour de cet homme. Mais j'ai eu le sentiment qu'en partant à la recherche de Levesque, c'était un peu, d'une certaine manière, toute chose égale, partir un peu à ma recherche à moi aussi. C'est un livre, je crois, très personnel, avec pas mal d'aveux, sans que je m'en ai totalement conscience, ou sans que j'en ai eu vraiment conscience en l'écrivant.
Mais j'allais dire, Votre premier roman s'appelle Carte postale. Les vers dont vous parliez de Levet s'appellent également Carte postale. On sent aussi comme un jeu de correspondance permanent, c'est-à-dire que de correspondance entre les événements, entre les lieux, avec des mystères. Même vous parliez de l'arme en brique empruntée par votre propre grand-père. On a l'impression que le temps et l'espace, à certains moments, se dilatent et permettent des rencontres. Fortuite, intellectuelle, à distance.
Vous avez raison. Du temps de Levet à Montmartre, ce grand garçon maigre, malheureux, assez laid, ou du moins très ingrat, mais qui surjoue sa laideur, non pas en passant inaperçu, mais en s'habillant de manière complètement délirante, avec des costumes de couleurs extravagantes, des revers monstrueux, des chapeaux qui faisaient rigoler tous ses amis. Cet homme qui était vraiment très mystérieux, il y avait en fond trois amis inséparables à l'époque, dans ces années 1896, 1900-1902 à peu près. C'était Jean-Marie Levet, Léon-Paul Fargue, qui était déjà un poète très jeune, mais encore, qui avait quand même déjà percé avec un recueil qui s'appelait Tancrède, qui avait beaucoup frappé ses contemporains, et un troisième personnage, peu connu du grand public, injustement peu connu du grand public, qui s'appelait Francis Jourdain. Et Francis Jourdain, qui était le fils d'un grand architecte, à qui l'on doit dire la Samaritaine, par exemple, c'était un ouvrier d'art, un graveur, un dessinateur, qui après va dessiner des meubles, un homme tout à fait passionnant. Et ces trois-là étaient vraiment les inséparables. Et Jourdain était sans doute, je dis sans doute, un ami de mon grand-père, puisque j'ai retrouvé dans les archives familiales plein de gravures d'eau forte signée par Jourdain, et mon grand-père n'avait pas vocation à être collectionneur de peinture, mais je pense qu'il habitait rue Lamarque, tout près, à quelques dizaines de mètres de là où habitait Jourdain, et je pense qu'ils se sont connus. Donc il y avait des tas de recoupements, et puis aussi, ce qui me touchait chez Levet, c'est au fond cet homme si attachant et qui aurait pu totalement disparaître. C'est-à-dire ces écrivains comme des petites flammes qui sont prêtes à s'éteindre, et pourquoi elles continuent encore aujourd'hui à trembloter un petit peu dans l'imaginaire et dans l'admiration de quelques centaines de lecteurs. Et là, ça a tenu à quoi ? À pratiquement rien. C'est Valérie Larbeau, qui ne l'a jamais rencontré, mais qui s'est qualifié lui-même d'un ami de son esprit, qui un jour tombe, non pas sur les poèmes de Levet en revue, ils n'avaient pas vu, mais sur un compte-rendu dans une autre revue des poèmes de Levet. Et cette personne qui faisait le compte-rendu des poèmes cite quelques vers de Levet. Et Larbeau dit, mais c'est formidable, c'est exactement ce que je cherche dans la poésie en ce moment. Et du coup, il va retrouver les revues initiales et va se passionner et va entraîner Fargue dans une quête.
Oui, parce qu'à ce moment-là, il essaye de trouver un type spécifique de poésie et il ne trouve pas.
Voilà, parce que Larbeau, qui a été un homme exceptionnel, pour moi, c'est peut-être l'écrivain français du XXe siècle que j'admire le plus. Ce n'est pas le plus grand. Il y a Proust, il y a Céline, on peut en retrouver d'autres. Mais c'est probablement l'homme que j'admire le plus, car c'est non seulement un homme d'une œuvre que je trouve remarquable, mais c'est très rare chez Larbeau. Il est l'homme qui aime découvrir et aider d'autres écrivains.
C'est un passeur.
Grâce à lui, on connaît Svevo. C'est lui qui a joué un rôle décisif quand même pour auprès de James Joyce. Il a découvert des gens comme Ramón Gómez de la Serna en Espagne, Chesterton, il doit beaucoup, Samuel Butler, et on pourrait citer énormément d'écrivains qui ont été connus en France par l'intermédiaire de Larbeau. Et parmi ceux-ci, il est le premier, je dirais pas vulgarisateur, mais le premier passeur en France de ce grand poète américain qui est Walt Whitman. Et il va faire la première édition en France des œuvres de Walt Whitman, un choix traduit, c'est lui qui va le faire à la NRF. Et d'ailleurs, j'ai cette édition d'ailleurs, que mon grand-père avait achetée, cette première édition de Walt Whitman en France. Et Larbeau disait, au fond, je cherchais l'équivalent d'un Walt Whitman français. Je le cherchais confusément, je ne le trouvais pas. Et un jour, je tombe là-dessus et je me suis rendu compte que c'était un Walt Whitman avec le sourire, avec l'humour, avec la désinvolture. Mais il y avait quelque chose que je cherchais confusément et j'ai eu le sentiment que je l'ai trouvé.
Qu'initialement, il le cherche outre-Atlantique.
Bien entendu.
Et finalement, il le trouve à Montbrison.
Il le trouve à Montbrison ou à Montmartre, exactement. Et c'est toutes ces petites coïncidences, toutes ces aléas de la vie littéraire qui fait que voilà, je prononce aujourd'hui le nom de Levet et que sans Larbeau, personne ne saurait plus qui est-ce.
Alors Levet, jusqu'ici, c'était quand même une figure aimée, comme un mot de passe dans une sorte de société secrète avec des affinités un peu mystérieuses, mais après un ouvrage comme celui-ci, attention, y a que vous prenez quand même le risque de l'exposer.
Voilà, hein. Oui. Mais en même temps, sa mémoire ne s'est jamais éteinte, puisque quand même, c'était longtemps, 15 ans après la mort de Levet, paraît la première édition des œuvres de Levet. Ensuite, il va falloir attendre 1942 ou 1943, l'édition dans la collection Métamorphose de Paulhan. Puis ensuite, il y a une édition dans la collection de poche poésie de Gallimard. Donc, on ne peut pas dire qu'il est totalement oublié. Non. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est que depuis que j'ai fait paraître ce livre, c'est-à-dire il est sorti le 10 janvier, donc il y a très très peu de temps, je remarque que dans chaque rédaction de journaux, dans les services littéraires, il y a toujours une personne qui connaît Levet. Levet, formidable, et qui sont contents de me compter dans ce petit club du poète disparu, quoi, dans ce cercle du poète disparu, en quelque sorte.
Alors jusqu'ici, c'était une sorte de feu follet, mais finalement, il va peut-être le rester, car votre enquête est extrêmement fouillée. Je pense qu'on peut dire qu'on est arrivé au bout des possibilités rationnelles de ce qu'on peut trouver sur Levet. Ça fait quand même 260 pages, hein, avec de nombreuses digressions, des correspondances, certes, mais tant mieux. Mais il ne cesse de se dérober, malgré tout.
Totalement. Et c'est au fond, c'est pour ça que c'est un personnage formidablement romanesque, car un personnage est romanesque selon deux critères à mes yeux. D'abord, un personnage est romanesque lorsqu'il est contradictoire. C'est Dostoïevski disait, au fond, le secret de la psychologie, c'est la coexistence en chaque individu de sentiments contradictoires. Avec Dostoïevski, on est au premier rang, hein, entre le bien, le mal, la perversion, la sainteté, etc. Tous ces personnages sont des personnages déchirés. Mais plus généralement, je sens s'élever une contradiction entre le gentil fils auprès de ses parents, qu'il aimait bien, mais il jouait à celui qu'il haïssait. Il jouait le bohème, etc. Et ses amis le voyaient complètement asexué. Puis il y a quand même des zones d'ombre assez surprenantes que j'ai pressenties. Mais je ne peux pas dire plus. Parce qu'encore une fois, je le répète, on n'a aucune lettre de Levet. Pas une lettre de Levet. On n'a pas un manuscrit. On sait qu'il... Il y a des vides absolus. Hein. Et donc, je sens chez Levet à la fois des contradictions qui lui donnent une sorte de mystère et donc de vie.
Et de tension.
Et en même temps, tellement de vide, de silence, de trou dans sa biographie qu'on ne peut pas s'empêcher de rêver. Mais moi, ce qu'il y a, c'est que je ne comble pas les vides. Je ne réinvente pas ce que je ne sais pas. Je dis, voilà, on sait ceci, on sait cela. Et donc... Comment dire, les vides dans ce fantôme Levet, c'est une sorte d'appel d'air extraordinaire à l'imagination. Et c'est ça qui m'excite. Et ces trous, au fond, je les comble non pas avec ce que je dis de moi, mais d'une certaine manière, ce n'est pas tout à fait ça. Mais c'est quand même assez saisissant de se dire, ce personnage vous échappe, et tard, parfois il apparaît, il clignote, il est là, il n'est pas là. C'est très mystérieux parce que on pense qu'il n'a pas passé son bac. Bon, mais on n'en est pas sûr. Et pourquoi j'ai appelé ce livre L'Express de Bénarès, c'est un peu bizarre. Et je crois qu'il mérite une minute d'explication.
Ah oui, si oui c'est le moins qu'on puisse dire. Oui.
C'est qu'à un moment donné, cet homme qui n'avait pas bougé de Montmartre, qui passait entre l'été à Montbrison chez ses parents et puis son travail, plus ou moins travail, il vivait un peu au crochet de son père, hein, qui lui donnait de l'argent, mais il avait trouvé un petit boulot comme ça au Courrier français pendant 2 ans, qui était un hebdomadaire à gros tirage satirique avec des illustrateurs magnifiques comme Jules Chéret, comme Toulouse-Lautrec, comme Aubrey Beardsley et d'autres.
Raoul Ponchon était éditorialiste.
Oui, Raoul Ponchon, absolument.
Pas rien quand même.
Non, c'est pas rien. Et en vers en plus. Il faisait ses éditoriaux en vers, c'était extraordinaire. Et Aude Levet a donné quelques poèmes, quelques satires, quelques petits contes, quelques comptes rendus dramatiques, etc. Et donc, Levet, à un moment donné, est-ce qu'il a soif d'exotisme ou non? Je ne sais pas ce qui lui prend, alors qu'il n'y connaissait rien du tout. Il arrache par piston, grâce à son père, une mission commanditée et payée pour faire des recherches sur les origines hindoues de l'arc mer. Il n'y avait aucune compétence et s'en foutait complètement.
C'est l'heure de la poésie. Là,
voilà, et il obtient, parce que les pistons du père, ça pouvait jouer, son père qui était quand même député, qui était très lié avec ce gouvernement en place, il obtient un billet avec une remise. Je ne suis même pas sûr qu'il a été au Cambodge, je ne crois pas. Il est vraisemblable qu'il a été aux Indes. Je dis il est vraisemblable, mais on n'en sait rien, parce qu'on n'a aucune trace écrite. Et quand il revient des Indes, soi-disant, ses amis, à l'entendre parler des Indes, ils ont l'impression qu'il en parlait comme quelqu'un qui aurait été à Saint-Germain-en-Laye, qui aurait lu 3 bouquins et qui en
reparlait. Il a lu un peu de Kipling, il en revient.
Voilà. Donc, en tout cas, au retour des Indes, il prétend devant tous ses amis qu'il a écrit un grand roman qui s'appelle « L'Express de Bénarès ». Bon. Et il montre à ses copains une liasse épaisse de feuillets. Mais est-ce que c'était des pages blanches ou non? En tout cas, il avait épinglé au mur de sa chambre des résumés des personnages qui étaient plus loufoques les uns que les autres. Et il semblerait qu'il ait lu auprès de certains de ses amis quelques pages du manuscrit. Et donc, tout le monde attend avec impatience le roman « L'Express de Bénarès ». Et on en parle, il y a des échos dans la presse. Même bien après sa mort, Berthelot, qui était secrétaire général des Affaires étrangères, et Paul Morand disaient « Est-ce qu'on a des nouvelles de « L'Express de Bénarès » Est-ce qu'on a retrouvé ?» Ce livre devient presque mythique. Mais comme les parents ont de toute façon tout détruit à sa mort, on ne sait même pas s'il a écrit une ligne, s'il a écrit 20 pages, s'il a écrit 300 pages disparues, on ne sait pas. Et si j'ai appelé mon livre « L'Express de Bénarès », j'y reviens, c'est précisément pour montrer la part de mystère de Levet. A-t-il écrit, a-t-il pas écrit? On ne sait pas. En tout cas, cet Express de Bénarès est un train fantôme. Ça, c'est ce qui est sûr aujourd'hui. Et voilà. Et donc, mais d'ailleurs, en même temps, je trouve ça formidable quand même, entre nous. C'est quand même formidable qu'un homme passe en particulier à la postérité pour un roman qui n'a peut-être jamais été écrit. Il y a des gens qui s'épuisent, j'en suis peut-être le premier exemple, à se battre pour écrire des livres qui risquent d'être oubliés 3 mois, 6 mois ou 10 ans après, et lui, on se souvient de lui pour un roman qu'il n'a pas écrit. C'est quand même extraordinaire.
Ou écrit,
mais en tout cas qui a disparu.
Ou commencé.
Mais c'est formidable que nous parlions aujourd'hui d'un livre qui n'existe pas et qui reste dans nos mémoires, enfin dans les mémoires, dans les mémoires de certains lettrés qui les font rêver. Et j'aime bien lui donner à ce texte de Bénarès une deuxième jeunesse ou une deuxième présence en titrant mon livre. Voilà, parce que moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'Express de Bénarès » et lui n'a pas écrit un livre qu'il aurait voulu appeler « L'Express de Bénarès ». Je trouve ça, oui. Ça fait partie des petits paradoxes de ces jeux de miroirs, de dérobades qui font aussi le sel de la vie littéraire.
Oui, et puis vous relancez le mythe pour plusieurs dizaines d'années.
Je ne sais pas.
Lancer de nouveaux rouletabilles à la poursuite de ce manuscrit. Voilà. Je dois dire qu'au fil du livre, on sent à la fois, sous votre plume, une vraie frustration de ne pas en trouver davantage, mais de fait, comme en ce moment, aussi de la jubilation. Hein, c'est-à-dire que...
Oui, c'est une jubilation, une mélancolie. Mais par exemple, c'est très mystérieux, par exemple, Léon Polfar, qui est aussi un peu mythomane parfois, raconte que lorsqu'il était en poste à Manille, comme adjoint au consulat de France, mais comme son chef, si je puis dire, le consul en titre, était malade et après est mort, il a de fait tenu le consulat à Manille. Ce n'était pas une ambassade, parce que Manille, était à l'époque propriété de l'Amérique, hein, même s'il y avait des querelles déjà d'indépendance assez violentes, assez sanglantes, qui agitaient les différentes îles de l'archipel. Mais Fargue prétend que Levet lui aurait parlé de l'arrivée de la flotte russe dans la baie de Manille, la flotte russe commandée par l'amiral Rozhestvenski qui allait se faire écrabouiller ou couler par le fond par la flotte japonaise en 1905 dans les détroits de Tsushima. Et Fargue raconte ce que lui avait décrit Levet, le folklore de cette armada russe totalement disparate. J'ai rien trouvé là-dessus. J'ai consulté les archives diplomatiques. Il n'y a ni dans les lettres de Levet, ni dans les documents officiels du consulat de France. Il y aurait eu forcément des échos s'il y avait eu cette flotte russe à Manille. Enfin, le consulat de France n'aurait pas pu ne pas en parler. Or, il n'y a aucun texte là-dessus. Alors, est-ce que c'était une affabulation de Levet au moment où il est très malade, il va être rapatrié en France et qui a fantasmé sur cette... flotte russe. J'ai cherché auprès d'historiens spécialistes s'ils savaient si la flotte russe avait mouillé à Manille quelques semaines ou voire un mois ou deux ou 3 mois avant de cet envoyé par le fond par la flotte de l'amiral Togo. Si je sais tout ça, c'est parce qu'il y avait un autre roman qui m'avait fasciné qui s'appelait La bataille de Claude Farrère. de l'Académie française. Et la bataille de Claude Farrère, qui avait été un énorme succès, je l'avais lu quand j'étais adolescent, ça faisait partie des livres de la bibliothèque de mon grand-père. Et je me souviendrai toujours comme ça, l'amiral Souvarov, qui était le nom du bateau que commandait. C'est des trucs qui sont restés dans ma mémoire. Mais rien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas quelle est la part d'affibulation, je n'en sais rien. Parce que Levet était quand même quelqu'un d'assez étrange, quand même. D'assez mythomane, d'assez farceur. Et en même temps, je pense, quelqu'un de profondément torturé.
Oui, parce que vous le dites à plusieurs reprises, cette tenue excentrique, cette façon de se mettre en pleine lumière, finalement, au fond, c'est de la pudeur. C'est une façon aussi de se masquer, de se dérober.
Je pense, oui.
Et puis, il y a ce goût aussi de la farce. Et de la mystification littéraire. Peut-être que ce n'est pas le moment, mais je voudrais qu'à un moment, vous nous parliez de Marie Pamelard, parce que c'est extraordinaire.
Ça, c'est formidable. Ce n'est pas tout à fait Levet, indirectement, parce que je pense que Levet était plutôt un homme qui était laid, qui avait été surprotégé probablement par une mère possessive qui avait eu, après 15 ans de mariage, un mariage d'amour, ce fils unique, elle a dû choyer et un peu étouffer. Et il m'a semblé, à relire les articles qu'il donnait, qui aurait peut-être chez lui une sorte d'homosexualité plus ou moins exprimée, plus ou moins latente ou cachée, je ne sais pas. Et peut-être même des sentiments un peu pédophiliques, hein, parce qu'il y a quelques témoignages un peu troublants de son ami Jourdain à ce sujet. Mais en même temps, ce qui est formidable, c'est de même que... voilà, vous avez cité le nom de Marie Pamelard, c'est un très bon nom. De même... que l'exploit de Ménarès, c'est un roman qui n'a peut-être jamais existé. Marie Pamelard, c'est une femme qui est devenue presque célèbre, alors qu'elle n'est rien du tout. C'est un jour, les trois amis, Fargue, Jourdain et Levet, ça c'est sûr, se promènent à Montmartre, parce que du côté de la rue Le Pic, et voient une fille qui débouche d'un institut et qui trouve très belle. Bon, ça c'est banal, trois bonhommes qui voient trois gars, ils sont jeunes, hein, ils ont 20 ans, hein, et qui voient une jeune fille assez séduisante et qui la suivent. Bon. Comme ça, bon, c'est classique, on n'appelait pas ça à l'époque du harcèlement
sexuel. C'est le 19e, hein, c'est plus libre.
C'est le 19e, mais ils se conduisent très bien, ils ne vont pas l'aborder, avoir des gestes inconvenants. Simplement, ils la suivent et la fille, à un moment donné, se cache, rentre dans une maison brutalement. Alors, ils disent peut-être qu'elle habite là, puis le concierge sort et dit « prends de petits voyous, qu'est-ce que c'est ?» Et puis, il l'envoie promener. Et puis, les trois amis, et surtout Fargue, vont commencer à rêver sur cette femme. Puis ils arrivent à trouver son nom par un gamin qui dit « Ouais, elle s'appelle Marie Pamela. » Bon. Et puis, ils rêvent de cette Marie Pamela, si je puis dire, comme un... Ça gonfle, quoi. Le mythe Marie Pamela gonfle, cette jeune fille. Mais d'où elle vient? Qu'est-ce qu'elle vient? Elle fait le conservatoire, peut-être. Qu'est-ce qu'elle est belle? Et Fargue va commencer même à vouloir écrire un livre, qu'il n'écrira jamais, parce qu'il est très paresseux, Fargue, et puis il éparpille ses manuscrits, etc. Il va écrire des fragments d'un livre. Il en parle à Larbeau. Par la suite. Et Larbeau se met à son tour à rêver de Marie Pamela. On devrait faire un livre sur qu'est-ce qu'est devenue Marie Pamela. Et cette Marie Pamela qui était rien, quoi, qui était une apparition de 3 heures ou 2 heures ou 1 heure, que sais-je, sur un trottoir de la rue Le Pic, ou ça, va prendre des proportions presque mythiques. Et même, encore une fois, les amis, bien après, 20 ans, 30 ans après sa mort, les gens disent « Est-ce que vous avez des nouvelles de Marie Pamela ?» Et il y a un ami de le Larbeau, mais même après la Deuxième Guerre mondiale, qui rêve de Marie Pamela, qui se souvient de conversations d'avant-guerre avec Larbeau, qui lui parlait de Marie Pamela.
Monsieur, nous sommes à Canal Academy, à 2 pas de la coupole de l'Institut de France, et nous parlons de Marie Pamela.
Mais c'est extraordinaire, Marie Pamela. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'à un moment donné, Francis Jourdain dit « Mais ça s'appelait pas Pamela, P.A. M-E-L-A-R, où c'est pas Mélard avec 2 M et un D comme le lard, quoi. Et heureusement qu'il a mal écrit le nom, parce que pas Mélard comme du lard de cochon, c'était fini, quoi. Alors que Marie Pamelard, on aurait... Mais vous savez, c'est toujours un livre tel que je l'aime, c'est une conversation. C'est la liberté d'une conversation. Cette Marie Pamelard m'a fait penser à une autre figure comme ça d'une femme quasiment... Enfin, inessentiel, c'est le cas de... Oui, mais totalement inessentiel. C'était pratiquement à la même époque, enfin peut-être de... Oui, presque à la même époque. C'était Daniel Halévy, qui était un homme formidable, hein, le fils de Ludovic Halévy, hein, l'auteur de Carmen, des librettiste avec Meillac, dont j'occupe le fauteuil du reste à l'Académie française, de Carmen, mais aussi bien de tous les opérettes d'Offenbach. Et Daniel Halévy, dans un livre formidable qui s'appelle Pays parisien, il raconte cette histoire quand il était jeune à Condorcet avec Marcel Proust. Halévy tombe fou amoureux physiquement d'une femme qui exerce pour lui un attrait érotique par sa beauté, son visage si lisse, impassible, comme ça, d'une crémière qui est la rue, j'ai oublié le nom de la rue, qui est dans Montmartre, et il la trouve sublime et il voudrait la séduire et il en parle à Proust. Son copain Proust, ils ont 16 ans, quoi, à peine 15-16 ans. Et alors Proust veut jouer les affranchis et lui dit « Elle couche ?» Venant de Proust, en plus, c'est plutôt drôle. Et alors, à qui jamais cette hypothèse-là lui serait venue à l'esprit, désemparé, dit « Je ne sais pas », en admirant son copain Proust qui a cette audace d'imaginer que quelque chose pourrait se passer entre eux. Il dit « Mais qu'est-ce que je peux faire pour la séduire ?» Alors Proust lui dit « Tu peux lui offrir des fleurs ». Ah bon? Alors, ils sortent du lycée, ils vont acheter un énorme bouquet de fleurs à la place de la Trinité et ils montent vers la crèmerie. Et là, Daniel Halévy, pétrifié, n'ose même pas rentrer dans la crèmerie avec son bouquet de fleurs. Il dit à Proust, vas-y. Et il y va et Proust rentre dans la boutique avec les fleurs pour son copain qui est resté sur le trottoir en face. Et il lui amène les fleurs et la crémière... se demande ce qui se passe, puis après comprend. Elle a ce beau sourire comme ça, mais gentil, attendri, mais très ferme. Elle fait un signe de dénégation de la tête et elle repousse le malheureux Marcel Proust qui recule et qui est mis à la porte. Et c'est une page magnifique, mais tout le monde se souvient de la crémière. C'est Madame Sherade, je crois. Je ne me souviens plus exactement le nom, mais quelque chose comme ça. Et au fond, Madame Sherade, dans l'imaginaire de Daniel Halévy, et peut-être pour une part de Proust, parce que Proust va parler après de la sexualité d'une crémière, je crois que c'est dans Les jeunes filles en fleurs, ça va les marquer. Et je trouve ça formidable que des femmes, apparemment de peu d'importance, comme Marie Pamélard ou la crémière de la rue Fontaine, ou je ne sais, un truc comme ça, restent aujourd'hui. On parle encore de ces femmes-là qui ne sont rien sinon qu'elles ont, comment dire, étaient des ferments dans l'imaginaire de gens. Et pour Fargue et pour Levet et pour Jourdain, ça va prendre des proportions incroyables.
Si j'étais un critique marxiste, je dirais que tout ça, c'est du sentimentalisme petit bourgeois, mais Dieu merci.
Vive le sentimentalisme.
mais exactement. Et d'autant qu'au-delà, finalement, nous avons tous notre mari, Pamela.
Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Et bien sûr, on a tous rêvé sur des femmes inaccessibles, mais même plus que des femmes, je dirais des apparitions.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire, le propre d'une apparition, c'est quoi? C'est de disparaître, si je puis dire. Et ce sont des femmes qui apparaissent, et chouf, elles disparaissent, et d'un seul coup, cette disparition, ça crée un appel d'air, et on rêve. Et oui, c'est presque, ça peut être aussi nervalien, si l'on veut, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même formidable. Et ce qui m'a aussi passionné dans ce livre, L'Express de Ménarès, à partir de cette vie si brève de Levet, ça a été aussi cette reconstitution incroyable de cette ville de Montmartre au tournant des 19e et 20e siècles. C'est quand même cette effervescence. Par exemple, j'avais beaucoup de mal à trouver des images de Levet. On n'avait rien sur Levet. Quand je dis qu'on n'avait pas d'écrit, bien entendu, mais trouver une image de Levet. J'ai trouvé, il y a une photo qu'on trouve un peu partout, j'ai trouvé par Internet sans trop de difficultés, mais c'est une photo qui était l'anti-Levet, si j'ose dire. C'était la photo qu'avait dû faire prendre ses parents au moment où il est nommé consul de France et où il va partir très loin, en Extrême-Orient, à Manille, aux Philippines, et où il pose dans un atelier photographique en grande tenue consulaire. Et cette photo, mais c'était tout ce qu'on avait. Et après, j'ai dû rechercher avec beaucoup de difficultés des caricatures, des dessins. Et dans un témoignage, un jour, je lis que Levet avait posé pour l'un des amis de la bande, qui était Jacques Villon. Jacques Villon était un très, très jeune peintre à l'époque, qui va devenir un peintre cubiste intéressant, important, qui est le frère aîné de Marcel Duchamp. Et pour gagner sa vie, comme beaucoup de jeunes peintres, il faisait des affiches. Et le témoin, qui s'appelle Maurice Constantin Veillère, qui parle de ça, il dit oui, il avait posé pour une affiche pour les Noctambules, Levet appuyait un cabaret de bar. Bon, très bien. Alors, je fais des recherches, je ne trouve pas d'affiche d'Octambule. Je téléphone à mon ami Jean-Claire, Gérard Régnier, qui est un spécialiste de Duchamp. Je lui dis, tu crois qu'il y a des catalogues de l'œuvre de Villon où on retrouvera les affiches? On ne retrouve pas. Et j'étais désespéré. Je voulais voir cette affiche quand même. Et je vais à Vichy, où il y a toutes les archives, Valérie Larbaud, qui avait une telle admiration, encore une fois, j'insiste, pour Levesque, et qui a tant fait pour le faire connaître. Et je demande à la responsable des fonds patrimoniaux, à côté d'un petit musée où ils ont reconstitué le bureau de Larbaud, je lui dis, vous ne savez pas, vous, cette affiche pour les noctambules peinte par Villon qui représente Levesque. Et cette femme me dit, mais venez. Et elle m'entraîne à 8 mètres de distance, et il y avait le bureau de Larbaud, avec ses objets familiers, porte-plumes, ses collections de soldats de plomb, etc. Parce qu'il adorait les soldats de plomb, le Larbaud. Et je vois l'affiche. Le témoin s'était trompé, c'était pas pour du tout c'était pour les noctambules, c'était le grillon. Et elle est là, l'affiche. Elle me dit oui, parce que Larbaud, dès qu'il a trouvé l'affiche, l'a fait encadrer, et elle n'a jamais quitté son bureau de toute sa vie. Toute sa vie, Larbaud a travaillé avec l'affiche de qui représente Levet de manière extravagante, habillé avec des costumes hallucinants. C'est formidable, quoi.
Mais qui correspond parfaitement à la description qui peut en être faite avec des mots par
oui,
ses amis.
Absolument, tout à fait.
Alors c'est extraordinaire, parce que ces gens arrivent à peindre, je pense, l'âme, parce voilà. Que en revanche, la photographie...
Non, elle est anonyme, elle est impersonnelle.
Ça ne correspond à rien. Même les traits physiques,
non.
On ne les retrouve pas. En revanche, que ce soit avec un stylo ou avec une plume, on le retrouve voilà. Avec son rayonnement et son charisme
ouais,
spécifique, un peu avec sa tristesse aussi. Mmh,
hein. Vous avez raison.
Il est marqué, ce garçon.
Ah oui, oui. Oui, parce qu'il est là,
il est très jeune.
À l'époque, il a 24 ans, on pourrait lui en donner 40, on ne sait pas. Oui, c'est un personnage sans âge. S'il rend assez pathétique, d'ailleurs. Oui.
Vous dites sans âge, mais alors ce qui est aussi... extrêmement troublant, c'est que, j'y pensais en évoquant le sentimentalisme petit bourgeois, c'est que ça va au-delà de ça, c'est qu'on est quand même sur des universaux, c'est-à-dire qu'ils nous sont extrêmement proches, tous ces personnages. C'est-à-dire qu'il y a quand même... l'époque a changé, on nous explique qu'on vit une révolution tous les 15 jours, qu'on a changé tant d'époques et autres, que avant c'était pire ou avant c'était mieux, je ne sais pas, mais finalement... on a vraiment l'impression que les sentiments, les choses qui comptent dans la vie d'un homme, n'ont jamais changé.
Oui, oui.
Et il est une sorte d'archétype, finalement.
Oui, d'archétype de personnage pathétique, oui. Mais c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que Levet, dans cette enquête que j'ai menée, je dois dire que quand j'ai commencé l'enquête, je ne savais pas vraiment où ça allait me mener, ce que j'allais trouver ou pas trouver. Et je me suis heurté à plus de portes fermées que j'ai pu ouvrir de portes, malheureusement. Mais malgré tout, j'ai senti chez Levet quelque chose de très fraternel. Donc quelqu'un que je pouvais, dans ses absences, dans ses dérobades, quelqu'un de très fragile et de très proche de moi. Je rejoins ce que vous dites. Oui, cette époque était une époque... Alors, avec une petite différence... on peut le regretter pour aujourd'hui, c'est que à cette période des années 1890, 1900, 1910, si vous voulez, il y avait une effervescence intellectuelle incroyable. Non seulement intellectuelle, parce qu'il y a aussi artistique, avec pictural, tout ce qu'on veut, mais le nombre de revues, par exemple, qui existent, de revues littéraires qui existent.
Et avec
qui
des tirages incroyables.
Avec parfois des tirages incroyables, parfois des tirages très modestes qui faisaient parfois 3 numéros, 5 numéros, 2 numéros, 1 an, 2 ans. Mais c'était fou. Ça n'arrêtait pas. Il y avait une sorte de ferveur. Bah, il n'y avait pas des grandes revues comme le Mercure de France et autres. Mais il y avait vraiment une vie littéraire, une animation littéraire. Et ce qui est amusant, c'est que pour bien comprendre quelqu'un, souvent, il faut l'opposer à quelqu'un de proche et de différent. Et il y a un écrivain un peu plus connu que Levet. Le nom reste encore familier à ceux qui s'intéressent à cette période-là. C'est l'écrivain Jean de Tinan. Jean de Tinan, qui est amusant parce qu'il est né quelques jours après Levet. Il a été à la même école que Levet, c'est-à-dire l'école Monge, qui était une école un peu privée, d'avant-garde sur le plan des méthodes pédagogiques. Ses parents, qui étaient des provinciaux, ont habité la même rue Cambon que Levet. Ils se sont connus, ils ont connu beaucoup de cercles littéraires communs. Ils ont peut-être été aimés la même femme. Enfin, je le dis avec prudence pour Levet, qui était une femme assez étonnante, qui est un peu un des archétypes de cette de ces silhouettes de cette époque-là, qui s'appelait Fanny Zeisinger. Fanny Zeisinger était une actrice assez belle, que dont tous les sous-groupes un peu de la bohème Montmartrois étaient tous plus ou moins amoureux d'elle, et qui a créé, qui a joué dans la création de Hubu Roy. Mais Jean de Tinan, lui, il était arriviste, alors que Levet n'était pas. Il était très beau, alors que Levet était très ingrat. Il a eu beaucoup de succès féminin, Tinan, et il a, par son ambition, par son carriérisme, connu tous les gens importants, de Heredia à Valette et à Rachilde, à toute l'équipe de Mercure de France. Il a été très... Donc, il a publié très vite des livres qui ont été remarqués. Il a été le nègre de Willy, le fameux Willy de Colette, vous savez. Et donc, Jean de Tinan a collaboré. Et puis, il est mort encore plus jeune que il est mort, lui, encore. Je crois qu'il n'est pas mort à 32 ans, je crois qu'il est mort à 26 24, ans. 24 ans, c'est ça. Il est mort. Mais l'opposition entre Tinan et Levet est intéressante, parce que Tinan, dont on se souvient un peu plus que de Levet, parce qu'il a d'abord publié un peu plus, lui voulait arriver. Alors que Levet, il y avait une sorte de... Ou est-ce que de renoncement, ou de découragement, je ne sais pas. Mais lui, peut-être parce que Levet, qui avait une admiration sans borne pour Rimbaud, s'est rendu compte qu'il n'était pas Rimbaud. Et même ses amis proches, Jourdain et Fargue, s'intéressait à ce qu'il écrivait, mais avec le sourire, prenait ça un peu à la blague. Au fond, personne ne l'a pris au sérieux, sauf Valérie Larbeau. Sans Valérie, encore, c'est Larbeau qui, le premier, a dit « c'est bien, Levet, c'est bien, il faut le faire connaître ». Parce que Fargue, quand il a collaboré à cette édition des œuvres de Levet, bien après sa mort, lui, c'était plus la mélancolie, la nostalgie de l'ami intime, de l'ami vraiment fraternel de leur première jeunesse à Montmartre, dont il avait la nostalgie, le regret, plus que de l'admiration pour un grand écrivain disparu. Et ça se sent très bien dans la préface, en forme de conversation, mais qui a été écrite totalement, évidemment, entre Fargue et Larbeau. Celui qui l'admire, c'est Larbeau. Celui qui évoque avec précision, et pour cause, mélancolie et affection, la silhouette de Levet à Montmartre, c'est Fargue. Donc, voilà. Et c'est ça qui fait que, encore une fois, cet homme m'intéresse aussi parce que, comme tous les hommes qui ont failli disparaître, et j'ai aimé de manière presque policière, quoi, je veux dire, mener l'enquête sur les traces de quelqu'un qui vous échappe toujours. Mais tous les personnages vous échappent, au fond.
C'est peut-être une bonne conclusion, mais néanmoins, j'ai encore envie de vous poser une question.
Mais je vous écoute, avec plaisir.
Ce que l'on ressent aussi dans notre façon de le cerner, de l'accompagner, c'est une immense bienveillance. Je voulais vous dire que c'est extrêmement reposant pour un lecteur d'aujourd'hui d'avoir affaire à quelqu'un qui écrit avec bienveillance.
Ben, je vous remercie. Je vous remercie. Oui, mais je crois que, si vous voulez, la malveillance, elle ouvre la malveillance ferme des portes, la bienveillance en ouvre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas cacher les zones d'ombre. Hein. Ben, quand je parle de la pédophilie vraisemblable de Levet, je n'ai pas de la bienveillance pour la pédophilie, c'est comprenez-moi
oui,
bien.
Mais
je dis, voilà, il est possible que... Mais je pense que quand on s'intéresse à un homme, il faut y aller d'abord avec délicatesse, avec prudence, ne pas tirer des conclusions trop hâtives. Et en plus, être généreux, c'est essayer de comprendre. Voilà. Et si on ne comprend pas un personnage, si on n'a pas de générosité, on n'arrive pas à comprendre un personnage. Et ce personnage, je l'aime parce que j'essaye de le comprendre, ou inversement, si vous voulez. Et je pense que la bienveillance, c'est veiller attentivement sur quelqu'un.
Et quand on observe un personnage avec bienveillance, je pense que ça rejaillit aussi sur soi et sur les autres. C'est un livre qui fait du bien.
Ben merci.
Parce que j'incite nos auditeurs à en devenir des lecteurs, devenir des passeurs d'Henri Jean-Marie Levet, mais aussi de goûter ces instants. Je ne vais pas dire de gentillesse, parce que ça a l'air gnangnan, mais il y a quand même un peu de ça, la gentillesse. C'est aussi une qualité. Elle est présente dans l'ouvrage. Elle est une façon de regarder le monde et les autres qui, probablement, nous manque un petit peu aujourd'hui. Et votre votre livre permet de s'en rassasier en même temps qu'on découvre un auteur que je ne faisais pas partie de la personne de chaque rédaction qui le connaît, j'ignorais.
J'ajoute une chose, c'est que à mes yeux, la bienveillance, c'est exactement l'antithèse de la mièvrerie. Hein. On est d'accord, bien entendu.
Ce livre n'est absolument pas mièvre, tout comme Henri Jean-Marie Levet n'est absolument pas mièvre. Ce serait vraiment un scandale que les auditeurs puissent penser ça à la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés au cours de cette conversation qui, j'espère, vous a rassasié également. Et donc, je donne maintenant les conseils pratiques à nos auditeurs, car la vie est aussi faite de considérations pratiques. Le livre est publié chez Fayard. Le titre en est donc « L'Express de Bénarès, à la recherche d'Henri Jean-Marie Levet » par Frédéric Vitou de l'Académie française, que nous remercions de nous avoir rejoints.
Merci.